Toute la multitude du peuple, excusez-moi, était dehors en prière, à l'heure de l'offrande de parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici ce que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Un vieux prêtre, Zacharie, qui officie dans le temple à Jérusalem et qui voit un ange. Un ange qui lui annonce que sa femme Élisabeth, qui est âgée, stérile et ménopausée depuis belle lurette, va concevoir un enfant. Une jeune vierge, à qui un ange encore annonce qu'elle va tomber enceinte des œuvres du Saint-Esprit. Qu'avons-nous ensuite ? Des bergers, à qui des anges, encore, hein, il devait y avoir une convention, annonce la naissance du Messie d'Israël dans une étable. Un roi dans une étable. Et comme si ça ne suffisait pas, des savants qui viennent de loin, leurs chameaux chargés de présents, pour ce fameux roi, né dans une étable, et ce n'est pas fini, guidé par une étoile étincelante dans le ciel, le GPS de l'époque, sans doute. Alors vous aurez sans doute remarqué le ton un peu sceptique et ironique que j'ai employé jusqu'ici. Et si je me suis permis d'utiliser ce ton, c'est parce qu'il me semble bien représenter la pensée quasi majoritaire en Occident aujourd'hui. Tout ça, tout ce que je viens de lire, tout ce que je viens de rappeler, d'énumérer dans l'Évangile, n'est tout simplement pas possible. Tout cela ressemble à s'y méprendre au mieux à un conte de fées, et au pire à une mauvaise plaisanterie doublée d'une insulte au bon sens. Nous en sommes là lorsqu'on tente de partager ce message extraordinaire que Dieu est venu dans le monde, que Dieu est né dans le monde. Ce récit n'est pas raisonnable, c'est vrai. Il constitue un défi à notre raison. Sauf, si la réalité est plus complexe qu'il n'y paraît, que pour rendre compte de cette complexité, il faut bien plus que ce que l'on peut déduire de notre monde par la simple raison. Il faut s'ouvrir. Et c'est là que le bât blesse en général. Notre intelligence, se réclamant de la rationalité, bute devant l'existence de Dieu et donc aussi devant les événements que nous célébrons aujourd'hui. Tout doit avoir une explication scientifique, et dès lors, le sens de la vie, les grandes orientations et le bonheur s'entendent et se recherchent dans la prospérité économique, le confort matériel et l'épanouissement personnel, et pas dans une étable, fut-elle éclairée par une magnifique étoile. Évidemment, dans ce cas, si le monde, la pensée occidentale, ne permet rien d'autre qu'une succession froide de faits rationnels, on est évidemment loin de l'émerveillement extraordinaire que nous propose la nuit de Bethléem. Car ce Jésus qui naît dans cette étable, en dessous de cette étoile, apparu dans le ciel, est venu pour tout remplir. Il est venu pour nous remplir, pour que nous trouvions en lui non seulement notre salut, le pardon de nos péchés, mais aussi notre sécurité, notre épanouissement, notre vie, tout simplement. Il faut s'ouvrir, et ce qui nous en empêche souvent, c'est justement notre intelligence que je mets entre guillemets. Je suis bien trop intelligent pour croire en ces balivernes. Et pourtant, cela veut surtout dire que l'intelligence non éclairée par Dieu est un savoir qui ne sait pas. Car si l'on ne sait pas Dieu, on ne sait pas l'essentiel, on ne sait pas la source, on ne sait pas l'être même. Oui, l'intelligence qui ne repose que sur soi, qui n'est que parole et analyse humaine, ne peut pas connaître, accéder à ce qui nécessite l'ouverture, la foi qui est d'abord une ouverture à l'autre, au tout autre, à Dieu, donc. Dieu s'est approché comme jamais au cours de l'histoire en la personne de son Fils, et c'est cela le sens de Noël. Mais nous devons, notre tour, nous mettre en marche vers lui, comme l'ont fait ces trois hommes venus des extrémités du monde connu, à savoir les mages. Seulement, voilà, la foi demande d'abord, exige l'humilité. Et voici tous les orgueilleux qui se dérobent à la simple pensée que ces événements puissent s'adresser à eux. La présence d'un hommage dans notre récit de la nuit de Noël n'est d'ailleurs pas là par hasard, me semble-t-il, qu'un prêtre, Zacharie, déjà sans doute un peu sénile et dont c'est le métier de croire en Dieu, se laisse prendre. D'accord. Qu'une jeune fille impressionnable d'environ 15 ans le suive dans son délire. Ok. Que les bergers, considérés comme la lie de la société de l'époque, aient besoin d'espoir et soient prêts pour une sorte d'hallucination collective, admettons. Mais comment expliquer les mages ? Ces étrangers à la foi, aux espoirs et aux coutumes d'Israël. Ces mages sont en fait le type même de ceux qui sont extérieurs et qui pourtant vont entrer eux aussi, ils vont entrer dans ce récit. Et celui-ci va dès lors prendre vie en eux. Et je le souhaite sans doute, et même certainement vie en vous. Ils ne devraient pas être là, ces mages. Et pourtant, ils y sont. Ils y sont amenés de la plus incroyable des matières, de manière, pardon, une étoile, une nouvelle étoile. On ne se rend sans doute pas compte en lisant le texte, peut-être ne connaissons-nous trop bien ces textes après tout, mais ces mages sont ce que la science et la connaissance font de mieux. Ce sont des intellectuels, Ils sont aux yeux des rois qu'ils servent, les seuls êtres capables de percer les mystères de l'univers. Les plus grands despotes de l'Antiquité, les pires monarques absolus de l'histoire, reconnaissaient être sans voix devant certaines réalités qu'ils ne comprenaient pas et faisaient dès leur appel à ces sages pour comprendre. Ces sages qui, en ce qui nous concerne, sont assez humbles pour se mettre en route, pour discerner au travers de cette nouvelle étoile apparue dans leur ciel, ciel qu'ils pensaient si bien connaître, que quelque chose de plus grand que cette étoile. Une lumière plus pure allait venir en ce monde. Ils ont fait le choix de s'ouvrir, de se mettre en chemin. Il y a des anges partout dans les textes que j'ai lus, dans les textes de l'Évangile. Pourtant, ce n'est pas un ange qui apparaît aux mages. C'est bel et bien une étoile. C'est bien un phénomène astronomique qui les a attirés, qui a été leur messager. Dieu se servirait-il de ce que nous sommes pour nous parler ? Ils avaient en tout cas compris que les éléments célestes observés étaient au service de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils étaient assez humbles pour comprendre, grâce et non à cause de leur intelligence, que cette étoile resplendissante annonçait une lumière bien plus grande encore, une lumière capable d'éclairer la noirceur de leur âme et la nôtre. Leur sagesse avait fait de la place à ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils se sont ouverts. Et ils vont même jusqu'à affirmer devant le roi Hérode, le seul roi assis sur le trône de Judée à l'époque, qu'ils sont venus rendre hommage à un nouveau roi, à un autre roi que lui, un roi qui vient de naître en son royaume à lui. Quelle audace, hein ? Mais à propos, comment est-ce que c'est possible ? Ils voient une étoile dans le ciel et ils recherchent un roi. Comment ont-ils compris ? Comment se fait-il qu'ils cherchent ce roi ? Comment ont-ils compris que cette étoile annonçait l'arrivée d'un roi en ce monde ? Eux qui sont venus de si loin, alors que ceux qui étaient prêts, les enseignants de la parole de Dieu, qui vont même jusqu'à situer le lieu exact de la naissance de Jésus, Bible en main, si je puis dire, ne semblent même pas au courant. Ils peuvent localiser la naissance du Messie, mais ils ne s'y intéressent pas vraiment. Hérode doit se renseigner sur le lieu de naissance du Messie. Il sait donc à présent, on lui a dit, mais il ne se met pas en marche, au contraire, des mages. Mes amis, Dieu a choisi les plus petits, les plus humbles, un pauvre charpentier et sa femme, des bergers, et finalement les plus éloignés de lui, des érudits païens, j'insiste sur païens, pour adorer son fils en premier. Alors la seule réponse à la question « Comment les mages étaient-ils au courant de la royauté de Jésus ?» La seule réponse rationnelle, logique, même si ces termes vont faire grincer des dents beaucoup, vu le contexte miraculeux de nos histoires, eh bien la seule réponse logique, c'est que Dieu leur a parlé. Il leur a dit quelque chose qu'il n'a dit qu'à de rares personnes, à savoir Joseph, Marie, les bergers, et ceux qui n'avaient pas oublié la promesse que Dieu leur avait faite de leur envoyer le Messie. Pour les mages, pas d'ange annonciateur. Forcément, si un ange leur apparaît, il serait difficile de nier l'évidence. Rien de tout cela pour les mages. Rien que leur intelligence ouverte. Dieu n'a pas besoin de beaucoup plus pour faire son entrée dans un cœur, pour y tracer un chemin de vie. Alors bien entendu, rien ne dit qu'ils ne se sont pas posés de questions avant de partir et pendant le voyage. Et je suppose qu'ils ont dû beaucoup discuter. Et rien ne dit qu'ils ne s'en sont pas posés en repartant de l'étable où ils avaient laissé leurs offrandes royales. Dieu ne craint pas les questions. L'homme devrait par contre s'en méfier. À l'analyse, elles ne sont souvent que des barricades supposées protéger l'être humain de ce que Dieu a mis dans son cœur, la pensée de l'éternité, son image, c'est que tout être humain appartient à Dieu. On veut bien réfléchir, mais pas à ça, ou en tout cas pas trop. Nos contemporains ont décidément le temps pour beaucoup de choses. Et en cette période de Noël, ils ont entre autres beaucoup de temps pour faire les magasins et autres. Mais ils n'ont pas de temps pour ce qui compte vraiment. Pas pour ce qui devrait être la quête de tous les hommes. Trouver Dieu. Les mages étaient des savants, les prix Nobel de l'époque. Mais ils avaient compris à force d'études qu'ils ne savaient pas grand-chose. C'est peut-être ce qu'il nous manque à nous aussi, assez d'intelligence pour reconnaître que nous ne savons rien. Et dès lors, faire dans notre cœur et dans notre vie toute la place à celui qui sait, à Dieu. Les mages sont retournés chez eux, délestés d'une partie de leur richesse, ce qu'ils avaient apporté pour adorer ce roi, ce nouveau roi en Israël. Mais ils sont repartis chez eux, remplis d'une lumière à nul autre pareille. En revanche, je l'ai déjà dit, ceux qui auraient dû savoir, ceux qui par leurs questions et leur proximité avec la parole de Dieu possédaient la connaissance, je vais donc parler des enseignants présents auprès d'Hérode, auraient dû être les premiers à se mettre à genoux devant leur Seigneur dans les tables. Mais ils n'ont fait qu'une chose, aider le pouvoir en place à tenter de tuer la lumière des hommes. Bien des années plus tard, l'enfant de Bethléem, une fois adulte, entrera dans sa mission et se tiendra devant l'un de ses enseignants de la Torah. Les yeux dans les yeux, il lui dira « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Je vais parler de Nicodème, bien sûr. « Tu enseignes le peuple de Dieu et tu ne comprends rien à ce que tu enseignes. » C'est une immense leçon, mes amis. La connaissance sans la lumière de Dieu n'est qu'un été noir. Des étrangers, des bergers misérables, un couple modeste, voilà le peuple de Dieu en devenir. Les choses folles du monde, comme le dira l'apôtre Paul. Et pour en faire partie, une seule condition, ouvrir son cœur. Parce que Dieu est amour, nous le savons tous, je pense, et la nuit de Bethléem en est la preuve. Il n'y aurait pas de naissance de Jésus si Dieu n'était pas amour. Mais là où cet amour est rafraîchissement et vie, pour certains, pour ceux qui croient, il est un feu dévorant pour l'homme qui s'obstine à traiter Dieu en dilettante. De plus, de quoi avons-nous peur? Après tout, ce n'est qu'un enfant qui est né dans l'étable de Bethléem. Et dans le plus parfait dénuement, pourquoi a-t-il une menace encore aujourd'hui pour tant de gens? Je pense que c'est parce que cet enfant-là, nous le savons intuitivement, cet enfant-là veut nous saisir le cœur, nous guérir de nos blessures, nous pardonner nos péchés, et aussi fou que ça puisse paraître, ça nous fait peur. Parce que nous ne contrôlons rien. Nous souffrons de tout, mais nous avons peur malgré tout que ce soit Dieu qui prenne le contrôle de nos vies. Et je m'adresse ici non seulement à ceux qui ne sont pas chrétiens, mais également à ceux qui le sont, parce que la peur peut faire encore partie de nos vies. Sommes-nous si sûrs, mes frères et sœurs, que nous ayons laissé vraiment toutes les pièces accessibles à notre Seigneur? Qu'il n'y a pas encore des choses que nous n'ayons pas osé lâcher. Il y a peut-être des choses que nous n'avons pas encore osé confesser. Nous sommes comme Adam et Ève qui se cachent à l'approche de Dieu parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont devenus. Ou alors, nous n'avons plus honte de rien. Et notre nudité spirituelle, notre vide intérieur devient alors une bravade, une folie, un chemin de mort. Alors, en ce jour de Noël, avec un peu d'avance, je vous invite à prendre votre honte, votre orgueil, votre rationalisme et ensemble à pousser la porte de l'étable de Bethléem. Là, vous y verrez Jésus, tout petit, tout fragile, le mystère de Dieu qui s'approche de nous en la personne de son Fils. Approche-toi à ton tour et penche-toi sur la mangeoire. Le petit tend sa main et te saisit le cœur, et là, là, tout est changé. Parce que l'étable de Bethléem existe toujours. Mais il ne faut pas la chercher au milieu de ruines archéologiques quelconques. Elle demeure bien plus près de nous, au plus intime, car l'étable, c'est notre cœur. Et n'ayons pas honte d'offrir à notre Seigneur un si misérable palais. Car j'ai une nouvelle pour vous. Il s'y sent bien dans l'étable de notre cœur, parce qu'il sait qu'à présent, il est chez lui, chez nous. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Amen.